Bonjour, ici Jean-Daniel Bissinger qui vous propose le nouveau numéro de Chronique pour la paix sur Radio Shalom, émission bimensuelle parrainée par J-Call et La Paix Maintenant. Nous sommes aujourd'hui avec David Ben-Ishai. Bonjour David.
Bonjour.
Pour parler de la relance par Benjamin Netanyahou et le ministre de la Justice Yariv Levin de la réforme judiciaire qui, selon ses opposants, fera d'Israël une démocratie illibérale. David Ben-Ishai est activiste politique et fondateur du collectif Démocrate Mobilisé qui regroupe des Israéliens francophones engagés sur les questions de démocratie et d'état de droit. Alors David, on assiste à un retour de l'offensive de la réforme juridique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi maintenant et nous rappeler les principaux objectifs?
Alors oui, la raison, elle est, c'est assez étonnant, mais elle est à la fois paradoxale et tout à fait opportuniste. D'un côté, en parallèle à ce que Yariv Levin veut faire, le ministre de la Justice, il y a quand même le procès de Netanyahou sur le moment où Netanyahou vient témoigner à son procès. Donc il est quand même mis en examen, notamment pour corruption. Et à ce moment précis, il y a deux aspects de l'état de droit qui sont attaqués extrêmement violemment. C'est un, la volonté d'essayer d'évincer et de sortir, de licencier la conseillère juridique du gouvernement. Et ça voudrait dire que Netanyahou puisse, si cette démarche aboutit, recruter une conseillère ou un conseiller juridique du gouvernement qui serait bienveillant et qui annulerait son procès. Donc on a bien là une dimension opportuniste. Ensuite, on a une autre dimension qui est liée à la loi qui a été rejetée, repoussée par la mobilisation populaire avant le 7 octobre, qui est transformer les règles du jeu, à savoir la nomination des juges, donc la commission de nomination des juges de la Cour suprême. La méthode qu'il veut faire adopter, d'un point de vue légal, donnerait au pouvoir exécutif toute la puissance. Ça permettrait au gouvernement de contrôler le pouvoir judiciaire et donc de réduire la démocratie israélienne à une démocratie libérale. Dès lors où l'un des pouvoirs contrôle le pouvoir judiciaire notamment, sachant qu'aujourd'hui déjà il y a une faiblesse entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, puisqu'aujourd'hui on a 64 députés, maintenant 68, qui fait qu'ils peuvent faire passer toutes les lois qu'ils veulent.
D'accord.
Donc déjà on a infléchi le pouvoir législatif sous la tutelle finalement du pouvoir exécutif. Si demain le pouvoir judiciaire tombe dans l'escarcelle du pouvoir exécutif, c'est terminé de la démocratie. Il n'y a plus de frein et il n'y a plus de contre-pouvoir.
D'accord. Et les principales mesures, donc, du coup, de cette réforme, elles tiennent à quoi, finalement? Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement?
Concrètement, l'une des choses qui est proposée, mais qui tiendrait pas la route, parce qu'elle serait... elle serait déboutée, comme ça a été le cas pour la loi précédente, par la Cour suprême. Mais effectivement, ce serait, il faut bien comprendre, le cœur de cette réforme, c'est quand même ce que j'ai expliqué à l'instant, finalement, changer les règles du jeu dans la commission de nomination des juges.
D'accord.
Et ça fait très longtemps, ça fait très longtemps qu'Yariv Levin ne fait pas le boulot. Et résultat des courses, on a des je crois, 150 juges qui doivent être nommés, parce qu'en fait, cette commission, elle ne va pas seulement adouber des juges de la Cour suprême. C'est elle qui va aussi permettre de nommer des juges dans toutes les juridictions d'Israël. Donc on est quand même dans une situation où tout le système est grippé par le ministre de la Justice qui, de façon assez folle, il devient l'ennemi.
D'accord.
Du système judiciaire. Un ministre de la Justice qui devient l'ennemi numéro un des juges et du système judiciaire.
Donc le gouvernement chercherait à abattre le pouvoir des juges à des fins politiques, donc, mais aussi à des fins personnelles.
Alors, à des fins personnelles, effectivement. effectivement, c'était cité à l'instant, concernant le procès de Netanyahou, à des fins politiques, oui. La configuration est la suivante en Israël. Premièrement, il y a un projet de loi actuellement qui est une dérivation de cette réforme, qui est de faire adopter par la commission va valider ou invalider les candidatures aux prochaines élections, notamment des députés arabes. L'idée dans ce projet, c'est de faire en sorte que de nettoyer, entre guillemets, tous les députés arabes qui auraient pu avoir une position nationaliste et automatiquement considérés comme terroristes, entre guillemets, et donc soutenant le terrorisme, et donc qui serait impossible pour eux de se présenter et d'être candidats à l'élection.
D'accord.
Ça affaiblirait le vote arabe, puisqu'ils auraient moins de représentants. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent, aussi bien les orthodoxes, le sionisme religieux, que le Likoud, savent que s'il y a des élections demain, et ça fait plus d'un an que c'est comme ça, ils perdent les élections.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, la raison politique d'essayer de mettre la main sur le pouvoir judiciaire, c'est aussi de mettre la main sur la commission électorale. Et c'est-à-dire aussi, dès lors où ils ont la main sur la commission électorale, on va trouver ces mécanismes-là en Hongrie, en Pologne. Dès lors, on va mettre la main sur la commission électorale, on va pouvoir dicter un certain nombre de règles du jeu qui, en faisant des bons calculs, vont avoir une incidence sur le vote. Et c'est ça, en fait, qui se joue en ce moment.
Est-ce que c'est aussi ça qui se joue autour de l'abrogation de la loi sur l'État-nation?
Alors, c'est une autre dimension. La loi de l'État-nation, on pourrait dire, c'est la loi fondatrice de ce qui pourrait être la réforme judiciaire. C'est-à-dire que vous avez une loi qui inscrit, d'une certaine manière, à la fois une préférence, on va dire, religieuse et ethnique, c'est pas dit comme ça, et au détriment des minorités, notamment druzes, chrétiennes, etc. Et musulmanes, évidemment. Et donc, cette loi État-nation ne reprend pas, elle aurait pu être tout simplement, elle aurait pu être amendée de telle manière à ce que l'élément d'égalité de tous les citoyens devant la loi soit rappelé. Ce qui existe, elle existe dans la charte, dans la déclaration de l'indépendance d'Israël, elle n'est pas reprise dans cette loi. Et automatiquement, c'est non dit, mais ça dit qu'il y a une ségrégation, il y a une différence entre des citoyens juifs de catégorie A et des citoyens de catégorie B qui sont les minorités. Donc l'abrogation, le fait de ça, c'est une demande forte de l'opposition, c'est d'abroger ou d'amender cette loi qui sert de noyau, hein, d'une certaine manière, à ce qui est aujourd'hui une dérive de l'extrême droite, des messianistes, et d'une certaine manière d'une forme de suprémacisme juif en Israël, quoi.
Bien sûr. Et est-ce que la politique américaine risque de renforcer le projet de cette démocratie illibérale?
Je suis pas sûr, parce que je pense qu'en réalité Trump c'est quand même pas le premier à défendre la démocratie. C'est pas Biden, hein. On va dire les choses de façon un petit peu crue. Notre ami Trump se fout royalement de la démocratie.
Oui.
Par contre, il a des ambitions entre guillemets de politique au Moyen-Orient. Et donc, on aurait d'un côté un chef tout-puissant, Netanyahou, qui se serait débarrassé de ses procès et qui régnerait comme un roi, mais un roi nu, puisqu'il aurait en face de lui la plus grande puissance, qui commencerait à lui tordre le bras sur la fin de la guerre, lui tordre le bras sur un État palestinien, lui tordre le bras. Et donc, on aurait une situation complètement paradoxale et folle, c'est-à-dire à la fois un pantin qui aurait vidé de la substance souveraine du pays, se pliant un chef d'État qui veut marquer l'histoire en amenant la paix, donc la normalisation avec l'Arabie Saoudite, etc. Pourquoi un État palestinien? Précisément parce que parmi les actions que voudrait mener Trump, ce serait de poursuivre les accords d'Abraham et d'introduire dans les accords d'Abraham une normalisation avec l'Arabie saoudite. Résultat des courses, l'Arabie saoudite, qui a bien vu ce qui s'est passé avec le 7 octobre, remet sur le devant de la scène des accords d'Abraham la question de l'État palestinien. Et donc, on aurait un Netanyahou qui a fait toute sa carrière politique contre un État palestinien en créant la dissension entre l'autorité palestinienne et le Hamas, et qui se retrouverait en situation de se faire tordre le bras. Et là, pour le coup, je pense que les Israéliens n'accepteraient pas cette espèce de contradiction absolue entre une toute puissance politique et finalement une souveraineté qui serait piétinée par le pouvoir américain.
Ouais, ouais. Bon, donc ça s'annonce un petit peu complexe.
C'est complexe, surtout ouais. Quand c'est pas Trump. Je veux dire, oui, on sait quand quelqu'un part parce qu'on le connaît. Bon, Trump, on le connaît déjà un petit peu. C'est vrai qu'il peut faire beaucoup de bonnes choses pour Israël, mais c'est quand même quelqu'un de très imprévisible. Et donc, moi, je préfère prévoir et avoir quelqu'un de... Surtout que Biden a été extraordinaire pour nous depuis plus d'un an avec cette guerre. Franchement, mais c'est ce qu'il y a et à moi de voir faire avec.
D'accord. Et l'Europe, là-dedans, qu'est-ce qu'elle pourrait... elle pourrait se situer comment?
L'Europe, pour les Israéliens, pas seulement les Juifs de France, pour les Israéliens, le regard qui est porté, on va dire communément, sur l'Europe est un regard qui est particulièrement, défi, suspect. Parce que la montée de l'antisémitisme, un antisémitisme porté notamment par les minorités musulmanes, arabo-musulmanes en Europe, font craindre aux Israéliens une espèce d'emprise du monde arabo-musulman sur l'Europe, et donc il y a une défiance à l'égard du positionnement de l'Europe par rapport à Israël, et surtout avec quand même des images de manifestations monstres de soutien au Hamas après le 7 octobre, de propos antisionistes, antisémites, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Hollande, avec ce qui s'est passé avec les jeunes qui sont faits, taper dessus après ce match de foot, ou que ce soit même en France, quoi, avec des manifestations qui sont... Donc il y a aujourd'hui ce sentiment, plus que les manifestations, les propos de LFI, de Mélenchon, toute cette frange de l'extrême gauche qui a complètement dévoyé sa mission et sa vision du progrès en essayant de jouer une espèce d'électoralisme, à mon avis, qui n'est pas si efficient que ça, mais qui adopte très clairement des positions antisionistes, antisémites, quoi. Et donc le regard qui est porté est un regard, c'est pas un allié potentiel supplémentaire à l'Europe. Ceci étant, de façon assez paradoxale, en ce qui concerne les outils, c'est-à-dire en situation de guerre, que ce soit les outils, et là tout le monde a un intérêt à écraser les outils, parce qu'ils sont surtout en train de poser un gros problème au niveau du commerce international, mais aussi au niveau de l'Iran, on pourrait avoir des alliances militaires, même ponctuelles, comme ça a été le cas le 14 avril dernier, avec les Anglais, avec les Français, pour contenir, voire aller au bout du projet de réduire à néant les infrastructures nucléaires de l'Iran, pour pas qu'ils constituent, pour qu'ils ne puissent pas constituer une menace dans le Moyen-Orient.
Ok. Et qu'est-ce que pourraient faire ceux qui soutiennent ici l'état de droit en Israël pour contrer cette évolution autoritaire?
C'est très, de mon point de vue, c'est extrêmement difficile parce que quelqu'un me posait la question, une amie qui est impliquée dans un collectif en France et puis en Belgique. C'est difficile d'être audible dans ce contexte. On a un contexte où les Juifs sont à la fois confrontés à l'inquiétude, même si aujourd'hui ils sont quand même rassurés par le fait que l'État d'Israël est une puissance militaire, mais ils sont quand même particulièrement secoués par l'antisémitisme. Et donc, certains ont peur, certains enlèvent des mezouzot, enfin, il y a toutes sortes de choses qui se disent, mais la difficulté, c'est de rendre audible notre discours. Et c'est vrai que c'est très dur. quand on vit en Europe, en France, etc., c'est très dur de faire entendre un discours d'équilibre, un discours de la ligne de crête, c'est-à-dire d'être à la fois de la même manière que, je vais faire un parallèle mais qui paraît peut-être abscon, mais c'est extrêmement difficile pour les Israéliens aujourd'hui, sachant qu'on a des otages et des soldats, il y a 3 soldats qui sont blessés, qui ont été tués hier, c'est extrêmement difficile pour eux d'entendre les dégâts qu'on a causés à Gaza. C'est extrêmement difficile. Il y avait hier soir au journal la première analyse qui a été faite sur Jebalia, où on vous explique que 19 000 bâtiments sont réduits à néant. Et donc aujourd'hui, ils n'osent même pas parler du nombre de victimes qu'on a fait. Donc le sujet est extrêmement délicat, les Israéliens ne veulent pas entendre, ne veulent pas voir. Ils ont besoin de rester, en quelque sorte, unis autour de la légitimité de se battre contre des ennemis qui nous ont attaqués, qui nous ont déclaré la guerre. De la même manière, en Europe, la difficulté, c'est comment faire entendre, un discours équilibré sur l'État, la structure étatique de l'État d'Israël, alors que le discours est difficilement dit. Donc, c'est un vrai challenge. Je pense que ce qui se fait à des échelles, ce que je fais moi et puis ce que je fais, que fait ce collectif pour la de soutien ou de défense à la démocratie israélienne, c'est de rendre accessible autant que faire se peut l'actualité israélienne. C'est-à-dire que de dire il faut qu'il y ait en continu des informations, on va dire rationnelles, bien illustrées, avec des bons exemples. Et donc il y a comme ça un certain nombre d'initiatives. Par exemple, vous avez aujourd'hui au quotidien un groupe WhatsApp, et puis les articles sont diffusés, qui traduit quasiment 2 ou 3 articles de Haaretz par jour. D'accord. Et donc vous avez la possibilité de diffuser de l'information, et c'est au moins que les gens ne soient pas seulement avec des chaînes, avec Qualita, avec I24, avec qui sont, on va dire, plus institutionnalisés et qui ont un peu plus de mal à pointer du doigt des failles, des difficultés dans lesquelles se trouve la démocratie israélienne.
D'accord. Et au final, si cette offensive aboutit, quel sera son impact, quel serait son impact sur le plan intérieur et extérieur, en fait ? Quel est le risque dans la société israélienne ?
Alors, là, on va parler un peu de la résilience israélienne. C'est-à-dire que il y a d'un côté, on l'a vu, je crois que moi j'ai eu l'occasion de tourner un peu dans tout Otef Aza, dans la région, dans les kibboutzim, et la chose qui m'a le plus marqué, c'est l'extraordinaire courage des Israéliens. Je pense que c'est pas donné à n'importe qui dans n'importe quel pays, à pouvoir du jour au lendemain, après qu'on était à l'étranger, qu'on a sa vie de famille, qu'on fait le barbecue du vendredi, et que sais-je, de tout d'un coup prendre son revolver et se dire « je vais défendre mon pays, et je vais éventuellement mourir ». Donc on a un côté israélien avec une résilience, on va dire, sécuritaire extrêmement forte, qui est à mon avis unique au monde, et d'un autre côté, la société civile israélienne est aussi extrêmement forte, capable de se mobiliser. On s'est quand même mobilisé pendant un an, des centaines de milliers de gens dans la rue. Et donc ça aussi, c'est pas quelque chose d'évident. Et donc on a ces deux choses qui peuvent se rejoindre à un moment donné et qui peuvent créer des conditions insurrectionnelles en Israël. C'est-à-dire, et je pense que le pouvoir politique comprend aujourd'hui, si on regarde tous les sujets, que ce soit la commission d'enquête d'État, que ce soit les otages qui sont aux mains du Hamas, que ce soit la réforme judiciaire, que ce soit, ils sont en minorité. Vous avez des 70, 80, 90% des Israéliens qui sont contre tous ces sujets-là. Et donc, ça fait quand même beaucoup, c'est très lourd, et je ne suis pas certain que le gouvernement ait le courage d'aller contre 80% de la population sur tous ces sujets. Et donc, et ensuite, une des choses par rapport à ces projets-là, c'est d'avoir une rue. Vous avez, dès que la tension baisse par rapport à la guerre et que les réservistes rentrent chez eux et qu'ils reprennent le cours de leur vie, c'est aussi le moment, parce que ces mêmes gens-là, c'était ce qu'on appelle les frères d'armes, en partie. Et donc, c'est des gens qui étaient mobilisés contre la réforme judiciaire. Et je pense que les Israéliens ne vont pas se laisser faire comme ça. Donc, Donc voilà, on a une grande difficulté structurelle institutionnelle de la démocratie israélienne. On n'a pas de constitution. On a la preuve aujourd'hui, on a vécu dans notre chair, qu'un homme peut arriver tout puissant, particulièrement intelligent et communicant, qui peut mettre à genoux tout le système et la démocratie israélienne, ce qu'il est en train d'essayer de faire. Mais on a à côté de ça un public, un peuple particulièrement courageux d'un côté et particulièrement éclairé et capable de se mobiliser contre toute tentation du 8e front, du front intérieur. Voilà, et je pense qu'on est dans un moment extrêmement complexe de l'État d'Israël, où on est à la fois sur plusieurs fronts militaires et à la fois sur un front intérieur qui est aussi difficile dans un contexte où beaucoup de gens sont déprimés, sont fatigués, voilà. Et on est dans cette ambiance-là. D'accord. Et donc, je ne pourrais pas vous faire le pari de la façon dont les choses ont évolué, mais je sais où se trouvent les ressources sociales, intellectuelles, militantes de la société israélienne. Et je pense que moi, en faisant partie, en étant un acteur de ça, on ne se laissera pas faire comme ça.
Ouais, c'était un peu la question en conclusion que je voulais poser, c'était quel scénario serait souhaitable à vos yeux pour éviter qu'Israël ne sombre dans ce régime autoritaire, un régime qui annihilerait la solution à deux États et probablement les espoirs de paix au Proche-Orient quand même, non?
Ou pas forcément. Alors, non, il y a une chose qui est sûre. Dans le moment qu'on vit maintenant, la question d'un État palestinien, elle est extrêmement impopulaire, peut-être plus encore qu'elle ait pu l'être, alors que ceux qui revendiquaient, et d'ailleurs les chiffres ne changent pas vraiment, ceux qui revendiquaient entre Avoda et Meretz une solution à deux États, c'est aujourd'hui Yair Golan qui est particulièrement efficient, efficace, qui est audible, n'empêche qu'il ne représente pas plus de 10%, peut-être 12% de la population israélienne. Et donc, il y a une grande défiance, même parmi les gens de gauche. Hein, on a vécu un moment, une attaque d'une violence inédite quoi, depuis la Shoah. Et donc, pour beaucoup de gens en Israël, il n'y a rien à faire, quoi. On a en face de nous des Palestiniens qui ne veulent qu'une seule chose, c'est nous détruire. Et s'ils veulent nous détruire, ils n'auront rien. Et donc, aujourd'hui, dans l'esprit d'Israélien, il y a la défiance à l'égard des Arabes est forte. Et en parallèle, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe, c'est que la population arabe-israélienne a été exemplaire. Non seulement exemplaire dans sa façon de se comporter, ça aurait pu exploser aussi, hein, à Lod, etc. Il y a un précédent en mai 2021. Mais de plus en plus, dans les sondages qui sont faits, les Arabes israéliens disent se sentir en solidarité et proches de l'État d'Israël, en tant que citoyens de l'État d'Israël. Donc ce n'est pas la question nationale, mais c'est au moins les questions d'identité de citoyens. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et donc, d'un côté, c'est de ce côté-là que j'irai chercher l'espoir de se dire, bah, finalement, si après un certain temps, d'une certaine forme de normalisation, de calme, mais je crois qu'aujourd'hui, et je fais partie des gens qui réfléchissent à ça, c'est se dire, demain, la question de l'État, elle ne devient pas la priorité. Ce qui devient la priorité, c'est calmer le jeu et permettre de créer les institutions d'une future entité palestinienne, mais qui puisse permettre de passer un certain nombre d'années avant que ça se traduise en autonomie, puis de l'autonomie en État. Mais aujourd'hui, il y a une nécessité à la fois de calmer, à la fois d'éduquer, et à la fois de passer d'un narratif à un autre. Et si ça n'arrive pas dans la population palestinienne, si ça n'arrive pas, ça va être un gros problème. Alors ça commence un peu, on voit comment l'autorité, je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'autorité palestinienne est en train de rentrer dans les camps de réfugiés de Jenin et donc de prendre sur elle le fait d'arrêter le djihad islamique et le Hamas, et voilà, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis pratiquement Oslo. Ça peut-être donner l'espoir qu'ils soient associés à la solution de Gaza demain. Et peut-être, mais honnêtement, les Israéliens ne peuvent pas aujourd'hui, ce serait un échec. C'est un échec clair, quoi. On a gagné des batailles, on aurait gagné une bataille militaire de façon exceptionnelle, mais d'un autre côté, on aurait perdu une bataille politique. On avait mis sous le boisseau les Palestiniens, et puis tout d'un coup, le 7 octobre, le Hamas ça viendrait d'une certaine manière légitimer une solution politique pour les Palestiniens, et ça, les Israéliens ne peuvent pas l'entendre.
D'accord. Eh bien, on va finir là-dessus, sur cette petite note d'espoir, malgré tout, et merci David, et bonne fête de fin d'année, malgré tout, et que les lumières de Hanouka guident Israël sur le chemin de la paix, avec la libération des otages.
Amen.
Amen. Au revoir. Merci.
Chag Sameach. Bonne fête.
Au revoir. Au revoir.